Je vais parler surtout de Robert Schall quand même. Je passerai assez vite sur l'abbé Prévost, parce que Manon Lescaut, c'est quand même un roman très connu. Donc, il est lui-même d'ailleurs ce roman inspiré de Robert Schall. Et même chose sur Marivaux. Je pense que La vie de Marianne, c'est quand même un roman plus connu. Donc, c'est surtout que sur Schall que je vais insister, parce que Schall est vraiment quelqu'un qui a créé une rupture esthétique absolument évidente. Et dans cette rupture esthétique, dans cette nouvelle esthétique romanesque, la place de la grande ville, la place de Paris, est aussi déterminante. Et ce que je vais essayer de montrer, elle fait partie aussi de cette rupture esthétique. Pour comprendre un petit peu mon propos, faut essayer de faire un effort de se déprendre au fond de certains présupposés qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui le fait que Paris ou qu'une ville capitale soit un cadre romanesque très intéressant et qui s'impose, c'est d'une telle évidence qu'on a du mal à se transporter dans une époque où ce n'était pas du tout le cas, c'est-à-dire où la ville et Paris n'étaient pas des décors romanesques qui s'imposaient, mais qu'au contraire pouvaient poser problème dans la représentation. Et il faut aussi avoir à l'idée que pour le roman lui-même en tant que genre, en tout cas en France, à l'époque, il n'était pas du tout évident de considérer le roman comme un genre digne, comme un genre digne d'intérêt, mais bien au contraire, c'est à cette époque-là que le roman a essayé justement de gagner ses lettres de noblesse alors qu'il était considéré comme un genre de peu d'importance. Et donc, ce sont ces deux phénomènes que je voudrais essayer de joindre. En effet, dans les première décennie du XVIIIe siècle, et comme l'a rappelé Pierre, je parlerai surtout de ces premières décennies parce que la période qui va suivre avec l'importance de la Nouvelle Héloïse et de Jean-Jacques Rousseau va encore modifier les choses. Mais dans les premières décennies du XVIIIe siècle, l'essor du genre romanesque en France va justement s'accompagner de la représentation privilégiée de la ville, du cadre urbain et plus particulièrement de la capitale. Moins d'ailleurs comme un décor qu'on représenterait de manière très précise que comme un espace où gravite un ensemble de populations qui va s'avérer très propice à l'observation des mœurs. Donc il y a aussi cet aspect de la représentation urbaine d'une modification en fait de la fonction du roman. Le genre romanesque, sur fond à l'époque d'une critique de plus en plus répandue de l'éthique aristocratique, hein, ce qu'un grand critique, il y a déjà longtemps, a appelé la démolition du héros. Donc le genre romanesque va progressivement tourner le dos à l'idéalisation qui avait marqué la fiction narrative du siècle précédent. Et donc la représentation de la vie urbaine et des mœurs de la capitale participe donc de ce processus et de ce renouvellement esthétique. Et je voudrais essayer d'en éclairer les raisons. Donc, mon exposé déroulera de la façon suivante. Je vais revenir rapidement sur le contexte de ce renouvellement esthétique, à savoir la montée en puissance de la ville et de la notion de ville capitale, qui là encore n'a rien d'éternel, hein, parce qu'on voit arriver cette notion et sa promotion à un moment donné. Je parlerai du roman qui précède celui dont sur lequel je vais m'étendre, c'est-à-dire le roman du XVIIe siècle et le type de décor, le type de cadre spatial qu'on y trouvait, pour m'intéresser plus particulièrement donc au roman parisien de Robert Schall, où je montrerai surtout, par exemple, que la violence des personnages, en fait, remplace le thème du Paris dangereux, qui serait une ville avec des périls, qui seraient des périls extérieurs aux protagonistes eux-mêmes. Je parlerai aussi d'une forme de réalisme des amours parisiennes, parce qu'il ne faut pas oublier que le roman, c'est quand même d'abord des histoires d'amour, hein, à l'époque. Et puis, pour finir, donc, si j'ai le temps, je montrerai le lien et les inflexions, donc, avec le roman de Prévost et celui de Marivaux, l'un étant plus axé sur la représentation de la délinquance, l'autre sur la représentation du peuple des scènes de rue. Alors, premier élément, donc, le contexte, celle d'une montée en puissance de la ville capitale. En effet, au XVIIe siècle, avec la consolidation des États nationaux, va émerger la notion de capitale, le siège des autorités administratives et politiques, mais aussi la manifestation visible de la gloire de l'État. Et depuis les dernières décennies, plus particulièrement du XVIIe siècle, la puissance respective des villes capitales européennes a donné lieu à des débats qui mêlent des considérations sur ce qu'on n'appelle pas encore la démographie. À l'époque, ça s'appelle la science des dénombrements, c'est-à-dire combien il y a d'habitants dans Londres, dans Paris, l'activité commerciale et la puissance militaire. Alors, de ce point de vue-là, il y a un ouvrage dont vous trouverez la référence dans l'exemplier qui est intéressant, qui est paru en 1682, d'un certain Alexandre Lemaître, qui est un ingénieur français protestant, qui s'est mis, on est dans la période donc de la révocation de l'édit de Nantes, hein, qui s'est mis au service de l'électeur de Brandebourg, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La métropolité ou de l'établissement des villes capitales, de leur utilité passive et active, de l'union de leurs parties, de leur anatomie et de leur commerce ». Et cet ouvrage, c'est une apologie des capitales, qu'on pourrait dire fondée sur un credo rationaliste. Il s'agit de montrer que la capitale est au service de l'utilité publique, qu'il faut établir des échanges et des obligations réciproques entre capitales et provinces, que la capitale joue un rôle important de direction politique, économique, culturelle, et que le souverain peut y exercer une surveillance sur ces sujets. Alors, ça paraît pour nous un argument de promotion assez étrange, mais à l'époque, c'est important parce qu'il y a toujours le danger que la grande ville, en fait, se retourne contre l'État central. La métropolité souligne aussi comme avantage de la capitale l'installation des académies, le perfectionnement des talents par la diversité des rencontres et les spectacles, par l'émulation, et plaide pour la sûreté, la liberté du commerce grâce à ces capitales, fait l'éloge aussi, alors là plus étrange pour nous, des maisons de correction sur le modèle de ces fameuses raspuisses. Alors, je suis pas trop sûre de la prononciation qu'on trouvait en Hollande, hein, qui étaient des sortes de maisons d'enfermement. On faisait râper du tabac aux nécessiteux. Donc, une série d'avantages en faveur des capitales. Alors, autre texte aussi intéressant qui permet un petit peu de brosser le décor, c'est un texte anglais dans les essais d'arithmétique politique de William Petty, qui est un texte paru en 1662. Petty va initier un débat sur l'importance respective des populations de Londres et de Paris, et va même créer une sorte de querelle, puisque il va sur cette question entrer en divergence avec un astronome français qui s'appelait Adrien Auzou, et la querelle scientifique autour de l'importance respective des capitales anglaises et françaises va prendre une dimension européenne via les publications académiques. En fait, on voit bien ici que derrière la recherche d'instruments de mesure et les débuts donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la démographie, se profile en fait la question du rapport entre la capitale et puis ce qui fonde la puissance respective des États européens. Alors, William Petty, comme Lemaître, hein, croit dans les bienfaits de l'accroissement des grandes villes, l'accroissement de la densité humaine. Il pense que la concentration des hommes dans l'espace est une bonne chose et qu'elle favorise le développement de la navigation et du commerce. Donc, on voit aussi que ces réflexions sur les capitales, sur la grande ville, en fait, sont liées encore une fois à l'action de la puissance des États, et que ce n'est plus la conquête des territoires par des moyens militaires qui apparaît comme un instrument de cette puissance, mais l'intensification des échanges commerciaux, la prospérité économique qui passe aussi par la grande ville, ce que répéteront après lui beaucoup d'auteurs. Alors, il faut rappeler aussi que la politique de la monarchie depuis Richelieu a fait de Paris le siège des académies royales, hein, dont se réclame un tissu d'académies de province, C'est l'endroit où l'on voit les meilleurs spectacles, où s'impriment les ouvrages nouveaux, où se donnent les conférences savantes. Et pour illustrer cette importance indiscutée de Paris dans ses premières décennies du XVIIIe, je citerai une comédie de Marivaux qui s'appelle La Méprise, où il y a le personnage de Frontin, toujours ces personnages de la comédie italienne, Frontin qui répond à Arlequin, qui lui demande si Paris est une grande ville, et il répond: qu'appelles-tu une ville? Paris, c'est le monde. Le reste de la terre n'en est que les faubourgs. Donc, il y a vraiment une sorte de triomphalisme parisien. Alors, est-ce que cette supériorité urbaine et ce triomphe de la capitale vont sans débat? Non, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, puisque à la même époque, on va trouver des détracteurs qui vont mettre en évidence une ville trop peuplée, une ville dangereuse, mal policée, corruptrice, qui vide les campagnes et les provinces de leurs hommes et de leurs ressources. Donc on présente cette ville un peu comme vampirisant la province. La capitale est aussi accusée d'attirer les mendiants et les parasites. Et sur le plan de la salubrité, elle retiendrait un air méphitique, elle poserait des problèmes insolubles de ravitaillement, de distribution d'eau, etc. Donc vous avez aussi, bien sûr, en miroir, un tout autre discours. Donc la ville est en débat, la capitale est en débat, et c'est donc dans ce nouveau contexte que le roman français, qui est donc un genre sans prestige, j'y reviendrai, va connaître une profonde transformation, un essor sans précédent, et fera de Paris, dans la période 1710-1740, son cadre privilégié. Alors pourquoi placer à Paris, et presque entièrement à Paris, le roman? Pourquoi si étrange? Mais justement, c'est là-dessus que je voudrais revenir. C'est en fait parce que ça ne correspond pas aux normes esthétiques qui jusqu'alors prévalait. Et donc j'en viens à la question de quel décor on trouvait dans le roman qui précédait cette époque-là. Alors, pour essayer de comprendre, il faut voir que les normes esthétiques en France, parce que la situation dans d'autres pays, j'y reviendrai, était très différente. Mais en France, au fond, les normes esthétiques littéraires à l'époque classique sont assez rigides et marquées par ce qu'on appelle la hiérarchie des genres. Au sommet de cette hiérarchie, il y a la tragédie. Mais il faut toujours rappeler, par exemple, qu'un auteur comme Voltaire n'a pas été du tout connu et célèbre par Candide, mais bien par ses tragédies que personne ne lit plus aujourd'hui. Donc, il faut essayer aussi de s'imaginer que cette hiérarchie, pour les gens de l'époque, était quand même très importante. Et dans cette hiérarchie des genres, il n'y a aucune place pour le roman. Pourquoi? Parce que le roman, c'est un genre bâtard, comme l'a bien expliqué Marthe Robert, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ancêtre prestigieux. Alors évidemment, on peut aller chercher dans l'Antiquité, il y avait bien des romans dans l'Antiquité, des romans grecs et latins, on cite bien sûr les romans d'Héliodore, d'Achille Tatius, d'Apulée, de Pétrone, mais vous comprendrez bien que quand on prononce en particulier le nom de Pétrone et le Satyricon, ça fait pas vraiment un roman tout à fait recommandable dans les normes du temps. Donc ces ancêtres ne sont absolument pas considérés. Donc ça, c'est un premier grief contre le roman. Et puis on reproche au genre son invraisemblance, sa puérilité. Les aventures en paraissent peu crédibles, l'idéalisme baroque et précieux est considéré comme tout à fait outrancier dans cette première décennie du XVIIIe siècle, le jargon ridicule, les procédés convenus et artificiels, et certains auteurs de romans comiques parodiques ne s'étaient pas privés d'ailleurs de faire le procès de cette forme. Donc, à l'époque dont nous parlons, le public s'est lassé de ses invraisemblances, de l'emphase et des caractères hors du naturel qu'il a pu lire dans les romans de l'époque, L'Astrée de Noré d'Urfé, les romans de Mademoiselle de Scudéry, de Gomberville, de La Calprenède. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi des modèles qui apparaissent à l'étranger depuis longtemps et qui présentent en fait une toute autre esthétique. En particulier en Espagne, il y a une vogue anti-idéaliste qui a émergé qui est la vogue. Alors bien sûr, il y a eu le Don Quichotte de Cervantes, c'est-à-dire dans une veine parodique, et puis il y a eu le roman picaresque, donc qui s'attaque aux valeurs de la chevalerie et à l'éthique héroïque. Et dans le picaresque, on représente le brut et le sordide, on représente aussi la délinquance économique, la déviance morale, pour réagir contre un idéalisme qui est de plus en plus en décalage avec une société en crise. Alors, quel est le cadre privilégié, sinon exclusif, du roman picaresque ? Eh bien, c'est la grande ville, dans laquelle prolifèrent parasites, marginaux, délinquants. Le Picaro, qui est le personnage principal de ces romans, alors Picaro, c'est un terme espagnol qu'on traduit tantôt par gueux ou par coquin, et le contrepoint ironique de l'ancien héros des romans de chevalerie, comme Amadis. Et cet Amadis, lui, justement, il gravitait dans un espace idyllique tout à fait artificiel, qui était fait de châteaux et de paysages champêtres. Or, les Picaros, eux, ils sont à Séville, entre autres, hein, qui est un port où affluent les richesses de l'Amérique, qui est alors la quatrième ville d'Europe au XVIe siècle, puisque c'est à cette époque-là que démarre la vogue du roman picaresque en Espagne. Et cette ville de Séville, elle attire les marchands, les banquiers, les artistes, les aventuriers et forcément les délinquants qui se rapprochent de l'argent. On met aussi en scène le Picaro à Madrid, qui est devenue la capitale siège de la cour, dans laquelle gravitent, avec les artisans du luxe qui suivent les courtisans, des aspirants aux charges, et évidemment, là encore, là où il y a de l'argent et des possibilités de promotion, des chevaliers d'industrie et des fripons en tout genre. Donc, vous voyez que le milieu du roman picaresque n'a pas grand-chose à voir avec le roman de chevalerie. Alors, il existe bien en France, dès le XVIe siècle, ce qu'on a appelé, avec Roger Chartier, une littérature de gueuserie, hein, qui représente la cour des miracles. Et il existe surtout un ensemble de récits de faits divers qui ont commencé avec l'origine de la presse à sensation, qu'on appelait au XVIe siècle les canards, qui vont donner lieu à un genre particulier qu'on appelle les histoires tragiques, et qui raconte bien des aventures ayant la capitale pour cadre. Mais d'abord, ce n'est pas tout à fait du roman, j'y reviendrai. Paris est évoqué de façon très sommaire, et surtout est pris dans un discours moralisant et convenu. Hein. Ainsi, par exemple, dans les histoires tragiques de Rosset, on rappelle que la concentration urbaine offre un asile commode aux pêcheurs et aux criminels. Alors, à un moment donné, par exemple, il est question de personnages qui sont des adultères incestueux. Et alors, Rosset écrit « Il n'y a ville, c'est-à-dire Paris, en France, où des gens comme ça se puissent mieux cacher que dans Paris. Cette multitude de personnes qui fait un petit monde doit les tenir clos et couverts mieux que s'ils étaient en Canada. » Autrement dit, ils sont mieux protégés et à l'abri de toute poursuite que s'ils étaient au fin fond du Canada. Mais tout cela s'inscrit dans un discours religieux qui fait du mauvais exemple et de la repentance une occasion d'édifier le lecteur. Donc, on n'est pas du tout, en fait, dans un cadre romanesque. Les histoires tragiques sont très particulières de ce point de vue-là. Et si les romanciers de l'époque suivante vont parfois puiser dans le répertoire des histoires tragiques en y cherchant des intrigues, ils se garderont bien d'en adopter le ton, justement, un ton très moralisant qui n'était pas propice à faire rêver et à émouvoir un public qui est un public mondain. Alors, en France, donc, le souci des bienséances et des normes esthétiques est bien plus contraignant qu'en Espagne, bien plus contraignant aussi qu'en Angleterre, voire par exemple le fait que Shakespeare n'était pas du tout apprécié. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on commence à considérer Shakespeare comme un grand auteur, parce que précisément il mélangeait le tragique et le comique. Donc vous voyez qu'il y avait une rigidité très spécifique à la France. Et alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans les romans? Des décors exotiques d'une Méditerranée de convention, avec Jérusalem, Alexandrie, Syrte, des palais, alors dont l'architecture était l'occasion de descriptions ornementales qui étaient des sortes de morceaux de bravoure, ruisseaux, murmures cristallins, prairies riantes émaillées de fleurs, vous voyez, qui vont bien sûr faire l'objet des moqueries des auteurs de romans comiques et parodiques. Alors, à ce propos, Furetière, qui est justement un de ces auteurs de romans parodiques, dans son roman bourgeois, imagine comment un auteur de roman pourrait décrire la place Maubert à Paris pour qu'elle puisse devenir digne de rentrer dans un roman. Et il dit, pour que la place Maubert donc puisse être digne d'un roman, il faudrait changer toutes les boutiques en porches et galeries, tous les hauts vents en balcons et toutes les chaînes de pierre de taille en beaux pilastres. Et alors, par contrepoint, je vous ai placé ici sur la diaporama une gravure du XVIIe siècle qui montre la place Maubert dans un tout autre genre, c'est-à-dire plutôt inspirée par la littérature de Gueuserie, justement, où on voit des petits marchands, des petits artisans un peu nécessiteux. Et c'est bien sûr une gravure comique intitulée « Le Parnasse ridicule de la place Maubert ». Donc, pas du tout, pour les critères de l'époque, un décor romanesque. Alors, même les efforts qui vont, à la fin du XVIIe siècle, être accomplis par certains romanciers pour sortir du ridicule du roman baroque et précieux, par exemple « La princesse de Clèves », qui fait partie du genre de la nouvelle classique, ou encore les histoires secrètes où on va mettre en scène des personnages historiques pour rendre le roman plus crédible. Même ces romans-là, en fait, ils vont toujours graviter dans le même milieu. Ce sont des intrigues princières et aristocratiques dans des décors conventionnels. On trouve le palais du Louvre, le cabinet du roi, les appartements de la reine et de la dauphine, les cérémonies, Versailles, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Marly, Chantilly. Donc, vous voyez, c'est pas quand même l'espace dans lequel gravite le commun des mortels. Et c'est précisément avec ces décors de convention, que ce soit du côté du roman baroque et précieux qui est décrié quand même largement, mais aussi des efforts des autres romanciers qui restent malgré tout dans un cadre princier aristocratique, que Robert Schall d'abord, qui est vraiment l'initiateur, ensuite Prévost, Marivaux et d'autres romanciers, vont rompre avec cette esthétique. Ça veut dire qu'en représentant le concret de la vie, en essayant de rapprocher les événements racontés du monde du lecteur, ils vont donc placer leurs personnages dans un cadre qui est un cadre qui est celui de la grande ville et de Paris. Mais ce nouveau décor ne répond pas seulement à un critère de vraisemblance, mais aussi à une volonté de transformer les ambitions du roman. Le roman ne sera plus, comme dans le cadre précieux, un genre qui éduque à un mode de vie raffiné, imité de la civilité aristocratique, et donc qui se déploie dans les châteaux et les parcs, mais un espace de réflexion qui fait vivre des personnages complexes et faillibles, dont les passions se heurtent aux contraintes de leur position sociale. Donc voilà ce qu'il en est du contexte romanesque, et j'en viens donc au roman parisien de Robert Schall. Alors Robert Schall, pour nous spécialistes du 18e, c'est quelqu'un de très important, mais en même temps je suis pas sûre que l'importance qu'on lui accorde se soit toujours concrétisée par sa célébrité ailleurs. Donc Robert Schall, c'est un auteur donc, qui naît en 1659, qui est mort en 1721. Et avec les illustres françaises, il fait donc de Paris le cadre presque exclusif de son roman. Alors pour comprendre que ce personnage a pu être l'acteur d'une aussi grande rupture esthétique, je crois qu'il faut parler très vite quand même de qui était Robert Schall, parce que c'est vraiment un dissident, une sorte d'outsider, si vous voulez, et ça permet peut-être de comprendre son caractère assez marginal a pu lui permettre au fond de tout oser. Alors Robert Schall, il est issu d'une famille parisienne, une famille parisienne de moyenne bourgeoisie. Et il aurait pu espérer faire, comme certains de ses personnages, une carrière mi-militaire, mi-administrative. Malheureusement, la mort de son père le dépossède de son héritage au profit de son aîné. Et donc, il va partir au Canada, espérant faire fortune dans la société des pêches en Acadie. Après 3 voyages là-bas au Canada, il joue de malchance et il finit par perdre tout ce qu'il avait investi. En particulier, il avait acheté beaucoup de podcasteurs parce que ça se vendait très bien à l'époque. Et puis, tout était stocké dans un fort français qui est attaqué par les Anglais, qui pille tout, évidemment, et il perd tout. Alors, ça ne le décourage pas de voyager puisqu'il s'embarque comme écrivain de bord sur un bateau de la Compagnie des Indes qui contourne l'Afrique pour aller au Siam. Et donc, il a laissé un journal de voyage très intéressant, dont notre collègue André Sisberg, qui a longtemps été professeur dans la maison, disait que c'était un des seuls témoignages d'Ancien Régime sur la vie des marins. Enfin, c'est vraiment un témoignage très rare. Et Charles revient à Paris, il va végéter dans des emplois subalternes. Ses propos suspects sur la religion lui valent un exil en province à Chartres, et c'est là qu'il va mourir, oublié, dans la misère. Il va laisser des mémoires, le fameux journal de voyage aux Indes, une continuation de Don Quichotte, un manuscrit clandestin déiste qui s'appelle « Les difficultés de religion » proposé au père Malebranche, l'un des plus importants textes déistes de la période, et ce roman, Les Illustres Françaises, qui va avoir une importance décisive sur les romanciers de l'époque. Donc on voit, c'est un voyageur, c'est un dissident, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un perdant peut-être magnifique, mais un perdant quand même, très éloigné des élites littéraires de la capitale, et donc c'est peut-être ce regard, au fond, qui lui permet de produire une esthétique très nouvelle. Alors en 1713, vont paraître donc anonymement Les Illustres Françaises, qui est un ouvrage qui aura beaucoup de succès si on utilise les critères qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire si on mesure le nombre de rééditions et de traductions très rapides de l'ouvrage. Alors, le roman est construit selon le schéma des histoires à deux visants, un peu comme le Décaméron, c'est-à-dire des amis réunis racontent à tour de rôle une histoire devant un public réuni pour une circonstance particulière. Toutes les histoires se déroulent dans la capitale et le thème principal, c'est ce qu'on pourrait appeler le désordre des familles, c'est-à-dire des jeunes gens qui gravitent dans la même sphère, bourgeoisie, petite noblesse, se désirent, s'aiment et se heurtent aux logiques d'alliance de leur famille ou à leur propre inconstance. Alors Charles avait parfaitement conscience de l'originalité de son roman, puisqu'il s'en explique dans sa préface, je cite, « On ne verra point ici de brave à toute épreuve, ni d'incident surprenant, et cela parce que tout en étant vrai, ne peut être que naturel. J'ai affecté la simple vérité. Si j'avais voulu, j'aurais embelli le tout par des aventures de commande, mais je n'ai rien voulu qui ne fût vrai. » Et alors, chose tout à fait remarquable, c'est que ce roman à deux visants va s'ouvrir par une scène de rue parisienne. C'est une des citations que je vous propose. Voilà comment le roman commence. Paris n'avait point encore l'obligation à Monsieur Pelletier, depuis ministre d'État, d'avoir fait bâtir ce beau quai qui va du pont Notre-Dame à la Grève, que sa modestie avait nommé le quai du Nord et que la reconnaissance publique continue à nommer de son nom, pour rendre immortel celui de cet illustre prévôt des marchands. Lorsqu'un cavalier fort bien vêtu, mais dont l'habit, les bottes et le cheval crotté faisaient voir qu'il venait de loin, se trouva arrêté dans un de ces embarras qui arrivaient tous les jours au bout de la rue de Gèvres. Et malheureusement pour lui, les carrosses venant à la file de tous côtés, il ne pouvait se tourner d'aucun. Un valet qui le suivait était dans la même peine et tous deux en risque d'être écrasés entre les roues des carrosses s'ils avaient fait le moindre mouvement contraire. La bonne mine de ce cavalier le fit regarder par tous les gens des carrosses dont il était environné. La crainte qu'ils eurent du danger qu'ils couraient les obligea de lui offrir place. Il acceptait leurs offres et ne délibérait plus que du choix d'une des places qui lui était offerte lorsque l'un de ces messieurs, vêtu d'une robe de palais, l'appela plus haut que les autres, et ça continue, c'est un personnage qu'il connaît, etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Schall renouvelle d'une manière tout à fait particulière un vieux procédé du roman depuis les origines, depuis le roman grec de l'Antiquité, qui est le début ad medias res. C'est-à-dire, le début ad medias res, au début du roman, va placer le lecteur au milieu d'une situation qu'il ne comprend pas au début et qui va donner lieu à des retours en arrière. Mais au lieu d'imaginer, comme dans le roman antique ou baroque, un rivage jonché de débris et de cadavres ou une attaque de brigands, qui correspond tout à fait au début in medias res des romans de l'Antiquité, Schall va mettre en scène l'un de ses héros de retour de province au milieu des embarras du Pont-Neuf, à Paris. Donc le décor parisien, c'est un décor inattendu, mais le lecteur un peu avisé pourrait se dire, bah tiens, le romancier reprend un thème moraliste traditionnel, c'est celui des embarras de la grande ville. Hein. C'est un thème qui avait été déjà traité dans l'Antiquité par Juvénal, repris au siècle classique par Boileau, et que Montesquieu d'ailleurs réutilisera dans les Lettres persanes. Et c'est d'ailleurs ce thème des embarras de Paris qui donne lieu à certaines représentations iconographique comme cette gravure de Nicolas Guérard qui montre précisément les embarras du Pont-Neuf. Si on lit par exemple la légende de cette gravure, on lit donc « Pour marcher dans Paris, ayez les yeux alertes, tenez de tous côtés vos oreilles ouvertes pour n'être pas heurté, culbuté ou blessé, car si vous n'écoutez parmi le tintamarre, gare, gare, là-bas, gare, rangez-vous, gare, ou du haut ou du bas, vous serez écrasé. » Mais ce qui est intéressant, c'est que la description de Schall n'est pas du tout satirique, c'est-à-dire il ne prend pas du tout ce traitement-là. Il évoque une ville embellie, changée par les travaux qui ont été entrepris pendant le règne de Louis XIV, une ville dans laquelle se déploie non pas la brutalité, mais la prévenance et la courtoisie des élites parisiennes qui sont coincées dans leur carrosse et qui cherchent à protéger le cavalier du danger. Alors, je viens à mon autre point qui est la violence des personnages dans un Paris qui, lui, apparaît comme plutôt pacifié. Il y a un autre thème qui revient chez les satiristes et chez ceux qui représentent Paris à l'époque. C'est l'idée que Paris est un coupe-gorge. Alors, vous avez le thème déjà ancien de la Cour des Miracles, hein. Un coupe-gorge infiniment plus dangereux que la campagne et les forêts. Alors, lui, Schall représente un Paris qui est relativement sûr, relativement policé. Et en fait, il y a bien dans son roman l'allusion à des attaques dont les personnages ont été victimes, mais l'un dans une forêt près de Paris, donc pas à Paris même, et l'autre sur une route des Alpes, hein, entre Grenoble et Paris. En fait, quand on regarde où se situe le danger dans l'espace parisien, on se rend compte que en représentant les déambulations nocturnes de ces personnages, Schall va plutôt souligner leur imprudence, qui sont la conséquence de leur passion ou de leur débauche. Alors, de ce point de vue-là, il y a un personnage qui est vraiment très intéressant dans les Illustres françaises, qui s'appelle Dupuis. Hein. C'est un personnage de jeune homme libertin, arrogant, cynique et sans scrupules, dont on a dit d'ailleurs qu'il représentait Schall lui-même jeune. C'est possible que Schall était assez violent et bagarreur, on peut le deviner d'après ce qu'il a écrit. Et donc, Dupuis est représenté comme revenant avec un camarade de beuverie d'un bal déguisé qui se déroulait au faubourg Saint-Germain. Et alors son déguisement consiste en un diable. En fait, il s'est déguisé en diable. Et donc il revient de sa beuverie. Les deux garçons avaient réservé des cochers de louage pour revenir, mais les cochers ont pris le prix de la course, ils sont partis et ils ont laissé, si bien qu'ils se retrouvent tout seuls. Ils sont ivres, ils sont seuls, ils sont à pied et loin de leur destination qui est le marais. Et là, Dupuis va décider, comme il sait pas quoi faire, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit Je me résolus. Alors, il voit une boutique de savetier et il se résout à attendre le matin là. Donc, il se fourre pour bien comprendre, parce que pour nous, une boutique de savetier, c'est assez bizarre d'être à la fois dans la rue et dehors et s'y réfugier. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré une gravure. En fait, c'était des petites caisses comme ça qui étaient appuyées, qui étaient dans la rue et qui se trouvaient à l'extérieur. Et donc il rentre dans l'une de ces petites boutiques et il s'endort en attendant le matin. Alors il est réveillé par le savetier. Le savetier découvre un diable dans sa boutique, se met à crier. Donc le jeune homme s'enfuit, toujours déguisé. Il va jeter l'effroi dans un enterrement. Hein, je lis pas parce que c'est un peu trop long, mais du coup, alors panique parmi ceux qui suivent l'enterrement, les parents et les gens qui sont assemblés, qui voient un diable qui arrive, et donc finalement. Une fois qu'ils comprennent ce qui s'est passé, ils vont assaillir le cabaret dans lequel Dupuis s'est réfugié, et Dupuis est obligé d'envoyer chercher un commissaire pour se sortir d'affaire. Donc, on voit dans cet exemple que le danger de Paris, qui est représenté dans le roman, ne provient pas d'un élément extérieur au protagoniste, mais en fait, il vient des personnages eux-mêmes et de leur imprudence. Alors, Dupuis offre d'autres épisodes de ce genre, en particulier parce que c'est un jeune aristocrate plein de morgue. Et alors, il fait de Paris le terrain de jeu de ses débauches. Et d'autre part, ce qu'on voit très bien, c'est que la persistance chez un personnage comme celui-là, d'une éthique aristocratique et militaire, malgré les interdictions du duel qui existent à l'époque, et puis aussi la coexistence de groupes sociaux très différents dans l'espace urbain, engendre une violence particulière liée à la volonté de la part d'un personnage comme Dupuis, donc d'un jeune aristocrate, de rappeler la place qu'il occupe dans la hiérarchie sociale et les égards qu'on doit lui rendre dans une grande ville qui brouille les repères et qui favorise les méprises. Et c'est d'autant plus vrai pour un personnage comme ça que dans ses débauches, il s'égare un petit peu dans des endroits et dans des milieux où il n'aurait normalement que faire, et donc ça donne lieu évidemment à des scènes un peu difficiles. Donc Chasles nous rappelle l'importance de ce point d'honneur et de la hiérarchie sociale, alors même que la ville et son anonymat peuvent brouiller les repères. Et là, il y a une scène particulièrement significative, qui est une scène de baignade au Pont Neuf. Hein. Vous voyez la pompe de la Samaritaine, qui dans la citation est désignée par le mot machine, et à un moment donné, vous allez voir, il y a un mot chambre qui désigne en fait un des étages sur lesquels montent les jeunes gens pour plonger. Alors voilà ce que raconte Dupuis concernant cette scène, le personnage de Dupuis. L'envie me prit de me baigner, nous allâmes sous le Pont Neuf. Galouin et moi, qui nous faisions un plaisir de nager et de plonger, nous allâmes directement sous le pont où nous montions à la machine et nous jetions du haut d'une seconde chambre. Il y avait quantité de monde qui nous regardait nous donner la passade. Alors la passade, c'est s'amuser à passer entre les jambes de l'autre sous l'eau, comme ça. Entre autres, un coquin de soldat qui était sur le rebord du pont où la canaille fait ses ordures et avec le pied, il nous en jetait. Je levai le nez pour lui dire de cesser et il m'en tomba justement sur le visage. Vous en riez? Et qui n'en rirait? Les regardants en rirent aussi. Je n'en ris pas, moi. Je plongeais pour me nettoyer et coupant entre les bateaux, je vins prendre terre au-dessous des degrés, c'est-à-dire des marches. Je les montais nus et à la merci des coups de fouet des charretiers qui ne me les épargnèrent pas. Je passais sur le Pont Neuf et tombais côte à côte sur mon coquin de soldat qui croyait en être quitte. Je le pris par les cheveux, je lui donnai 3 ou 4 coups de poing sur le nez et le jetai du haut du pont dans la rivière où je me jetai après lui. La surprise que mon action lui avait causée et une si grande chute l'avait étourdi, ses habits l'entraînaient au fond de l'eau. Et si on avait été à son secours, c'était un soldat noyé. Nous nous rhabillâmes et j'obligeai le batelier de me passer du côté du quai de Conti où on avait porté le maraud, Nous étions tous d'un air à faire trembler la canaille et nos laquais marquaient ce que nous étions. Je trouvai le soldat à terre entouré de plus de 1000 personnes, entre autres de plus de 40 soldats comme lui. Tout mourant qu'il était, on ne put pas m'empêcher de lui casser ma canne sur le corps. » Alors on voit que cette scène, qui aurait pu offrir le cadre d'un épisode comique à thème scatologique à la manière des fabliaux et des historiettes, est imaginé et traité très différemment. Le héros de l'histoire ne rit pas de ce qui fait rire l'assistance et le lecteur est impressionné par la fureur du protagoniste. C'est précisément dans ce genre de scène de rue qui aurait pu être traité de manière amusante et pittoresque que Chasles manifeste son originalité. Un personnage principal qui n'a rien de chevaleresque et de magnanime, des inférieurs sur le sort desquels le lecteur est conduit à s'apitoyer et une noblesse présentée d'une façon tout à fait anti-idéaliste. Alors, un autre épisode montre le même groupe de jeunes gens débauchés, livrés à eux-mêmes dans une maison parisienne en travaux, faisant leur jouet de créatures qui survivent dans la capitale. Alors là, il faut avoir à l'esprit les palais et les prairies riantes dont je vous parlais pour comprendre un petit peu le décalage. Nous étions le dimanche suivant, dernier du carnaval, dans une maison qui appartenait à l'un de nous et qui n'était pas habitée parce que les maçons y travaillaient. C'était là que pour plus de liberté, nous tenions nos assemblées. Il y avait pour tout meuble des planches qui nous servaient de sièges et de tables. Enfin, c'était un vrai taudion, c'est un taudis en fait, et nous nous y divertissions à notre manière, mieux que nous n'aurions fait dans le plus magnifique palais du monde. Du reste, grande chair et beau feu, nous y buvions du vin excellent et y mangeions de bons morceaux assez souvent sans couteau et toujours sans nappe ni serviette. Un de nos plaisirs des plus ordinaires était de faire enivrer 3 ou 4 filles de Vénus, c'est-à-dire des prostituées, de semer la discorde entre elles et de les faire battre à coups de poing. La description du lieu est évidemment à l'opposé de la tradition de la civilité, de la bienséance et du raffinement du romanesque précédent. Et la débauche évoquée fait de Dupuis un personnage totalement dégradé, mais le tout, c'est ça qui est important, sur un ton sérieux et non pas parodique. C'est là qu'est la vraie rupture. La scène évoque davantage un bouge de Hollande croqué par les graveurs flamands de l'époque que le Paris mondain. Alors, l'épisode suivant va représenter dans le même taudion dont les questions ici, un de ces petits métiers de Paris, le marchand d'oubli ou oublieux. Alors là, c'est une autre scène qui est intéressante par sa violence aussi. Alors, qu'est-ce que c'était que les oublieux? C'était une corporation installée à Paris depuis le Moyen-Âge. Les oublieurs vendaient des pâtisseries qu'ils jouaient parfois au dé avec leurs clients. Ils chantaient et dansaient aussi pour égayer les compagnies. Ces marchands ambulants, qui officiaient aussi la nuit, étaient particulièrement vulnérables. Alors là, vous voyez un oublieux avec son espèce de petite corbeille dans le dos, dans laquelle il y a ses pâtisseries. Donc ils étaient particulièrement vulnérables, comme le rappelle une légende versifiée d'une autre estampe qui représente ces oublieurs. Je cite, quand je bats le pavé, criant « Oublie, oublie, je ne redoute point ni les chiens ni les loups, mais je crains seulement, commençant à marcher, leur propre au filou. » Donc, les marchands d'oubli, tout seuls, la nuit, étaient sans doute assez vulnérables. Et ils avaient raison de l'être quand on voit la scène des illustres françaises où les jeunes compagnons de Dupuis vont attirer l'un de ces marchands d'oubli dans un véritable guet-apens, toujours dans ce fameux taudis. Nous entendîmes passer un oublieux, nous l'appelâmes, il monta, et fut surpris de se trouver dans un endroit aussi vilain que le nôtre. Nous le fîmes boire pour lui faire reprendre cœur, c'est-à-dire courage, nous jouâmes contre lui, comme nous l'avions résolu, 4 fois plus que valait son corbillon. Il voulut sortir pour aller quérir de quoi nous payer, nous ne lui permîmes pas, nous fîmes son procès, la gueuse, c'est-à-dire une des prostituées qui était avec eux, qui contrefaisait le juge, le condamna à être pendu, et le reste. Alors bon, je vous laisse prendre connaissance du reste. Le pauvre oublieux est pendu et croit sa fin dernière arrivée. Bon, finalement, il tombe et il reste sans connaissance. Il est malade. Là, les jeunes gens sont obligés de faire venir un chirurgien qui les sermonne. Et finalement, ils finissent par trouver... L'oublieux a perdu sa place, a perdu son métier. Ils finissent par se débrouiller pour lui trouver un emploi. Il devient chef de cuisine, mais ils ont compris que la blague était vraiment de très mauvais goût. Donc on voit ici une violence des jeunes gens se déchaîner, hein, dans un Paris dont ils font un petit peu leur terrain de jeu, et dans ces relations qu'ils établissent de manière totalement inégale avec ce petit peuple de Paris. Alors, c'est pas la seule violence que l'on voit dans les illustres françaises. On peut avoir aussi une violence des parents, par exemple, qui sont, dans ces problèmes de mariage contrarié et d'alliance, plus soucieux de leur statut social et de leurs intérêts que de la vie de leurs enfants. Il y a une histoire dans le roman d'une certaine mademoiselle de Lépine qui est séduite par un certain Després. Després veut l'épouser, les parents ne veulent pas. La jeune femme est prête d'accoucher, et puis finalement elle est bousculée et blessée dans un escalier par le père du jeune homme qui est opposé au mariage. Elle est envoyée par sa propre mère à l'Hôtel Dieu où elle meurt, ainsi que son enfant. Donc vous voyez des scènes d'une très grande violence et qui cadrent pas du tout, évidemment, avec l'esthétique romanesque du temps précédent. Alors d'autres épisodes vont aussi mettre en lumière une ville commode à ceux qui veulent dissimuler leurs amours illicites. Et là encore, différence avec le roman des époques précédentes, c'est que dans les romans baroques et précieux, on évoquait des héroïnes qui étaient victimes de rapts, qui étaient retenues captives dans des décors orientaux, et qui parvenaient toujours, bien sûr, à rester chastes, ce qui avait... susciter l'ironie de Pierre Bell, dont je vous ai indiqué la citation du dictionnaire historique. Hein, il dit « Il est certain que monsieur et mademoiselle de Scudéry et les autres faiseurs de romans, leurs contemporains, ont choqué fortement la vraisemblance quand ils ont fait enlever leurs héroïnes sans vouloir qu'on crût qu'elles accordassent de gré ou de force aucune faveur à leur amant. » Alors, c'est pas du tout le cas des héroïnes de Chasles, qui finissent toujours par céder, finalement, dans la série des histoires. Elles cèdent à une promesse de mariage, mais en fait, il y en a qu'une qui ne va pas céder, mais on va voir que sa résistance est assez ambiguë. Donc, le pari du roman va leur offrir des sages-femmes complaisantes et discrètes, des chambres ou des maisons de location où leur amant les installe à l'abri des regards indiscrets, est évoqué, bien sûr, l'hôpital des enfants trouvés, lieu qui permettait de recueillir les nourrissons abandonnés et de cacher des naissances illégitimes. Les lieux de prostitution aussi sont évoqués à plusieurs reprises. Et si certains hommes du roman, ce qui n'a rien de très original dans la littérature de l'époque, fréquentent des maisons de rendez-vous dans lesquelles on peut acheter des plaisirs tarifés. Ce qui est plus original à un moment, c'est que Chasles met en scène une femme, la Récard. Alors vous me direz, un personnage de prostituée, là encore, c'est pas original. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme se donne dans une maison de prostitution pour rien, juste pour le plaisir. Donc là, c'est vrai que sur le plan romanesque, il fallait oser. Hein. Alors, quant au seul personnage féminin, qui ne cède pas à son amant, donc Angélique, dans l'histoire d'Angélique et Contamine, sa vertu, là encore, est ambiguë. C'est une orpheline de petite noblesse, elle ne peut pas espérer être épousée par un amant qui est issu de la robe, mais dont la famille s'est considérablement enrichie à la suite d'une alliance matrimoniale avec un partisan, c'est-à-dire l'un de ses financiers qui prélevait l'impôt. Et la disproportion de fortune, qui est soulignée en préambule à l'histoire des deux jeunes gens, renouvelle le thème du mariage contrarié, mais en évoquant un motif pour cette contrariété qui n'est ni noble ni romanesque, mais qui est l'argent, un thème qui, bien sûr, parcourt le roman chalien. Alors, au passage, Chasles, qui a eu affaire avec des partisans, égratigne au passage l'univers contemporain sur le thème bien connu de la dégradation des valeurs par l'argent. Hein. En particulier, je vous ai mis une citation, j'y renvoie je vous y renvoie, hein, un personnage qui dit que finalement, lui, il faisait partie de la noblesse d'épée, mais aujourd'hui, finalement, même si on fait des fortunes de manière immorale, eh bien, on arrive quand même, finalement, à être riche et considéré. Donc, Angélique, pour revenir à elle, se trouve dans un statut inférieur à celui de son amant, Contamine. Et finalement, elle va devoir se battre avec ses propres armes si elle veut pouvoir épouser le jeune homme dans cette société parisienne qui semble surtout reconnaître la fortune. Alors, elle joue un jeu très très dangereux, si j'ose dire, puisqu'elle accepte d'être logée, financée, habillée, parée par son amant, mais son amant au sens classique du terme, hein, en toute... toute chasteté, et elle prend toutes les apparences d'une fille entretenue tout en refusant de céder à Contamine car elle veut malgré tout se faire épouser. Alors cette stratégie ne va pas sans risque pour sa réputation et c'est un incident lié à cette stratégie qui va lui arriver à la foire Saint-Germain. Alors la foire Saint-Germain, c'est aussi un lieu du Paris de l'époque assez intéressant. S'y rencontrer des commerçants forains qui venaient de toute la France et même d'Europe pour vendre dans des loges leurs marchandises et particulièrement des objets de luxe pour lesquels se déplaçaient une nombreuse clientèle. Et comme tous les lieux où il y avait beaucoup de monde, c'était un endroit où on pouvait aussi se montrer. Et c'est du reste pour montrer sa belle maîtresse que Contamine demande à Angélique de se parer avec raffinement, lui se mettre des bijoux, etc., pour la présenter comme fortuitement à des parents, en provoquant donc une rencontre à la foire Saint-Germain. Malheureusement, Angélique, qui est venue faire emplette dans la loge d'un miroitier, rencontre une ancienne protectrice, une princesse, qui, elle, sait qu'Angélique est pauvre et célibataire. Et donc, cette princesse l'interpelle et s'étonne de sa luxueuse parure. Hein, je cite « Vous êtes dans un état bien magnifique, madame, lui dit-elle. Vous avez bien changé depuis que vous êtes sortie de chez moi. Mais quel est votre mari pour vous le faire prendre si haut ?» Ces paroles la jetèrent dans un désordre qui ne se peut exprimer. « Je suis encore fille, madame, » poursuivit-elle d'un air fort embarrassé. « Vous êtes encore fille, » reprit cette princesse d'un air dédaigneux. « Vous êtes jolie, » ajouta-t-elle en lui tournant le dos et en la regardant avec le dernier mépris. Car elle crut qu'elle était une fille perdue à qui la débauche fournissait le moyen de le porter si leste. Angélique resta comme morte dans le moment. Elle était au désespoir d'avoir été reconnue et que cette princesse la prenait pour ce qu'elle n'était pas. C'était ce qu'elle avait toujours appréhendé. Elle se remit pourtant en apparence et sortit de la boutique du miroitier, dont elle prit le miroir à tel prix qu'il voulut, n'ayant pas le temps de marchander. Alors ici, on voit que les détails prosaïques de la vie parisienne, ici le marchand, le miroitier, l'habitude du marchandage avec les forains, accompagne en fait la tension dramatique de l'épisode dans un effet caractéristique de cette nouvelle esthétique romanesque. C'est là que pour l'époque c'est très original, c'est-à-dire à la fois des détails qui apparaissent comme un peu indignes, hein, dont on parle pas dans le grand roman, et en même temps une très grande tension dramatique. Alors finalement, Angélique va s'expliquer avec la princesse qui intercédera en faveur de son mariage auprès de la mère de Contamine, mais on voit vraiment ici des personnages complexes dans une perspective qui n'est pas du tout une perspective idéaliste, parce qu'on peut toujours s'interroger finalement sur l'attitude d'Angélique, son caractère très équivoque. Donc il y a vraiment ici un art de suggérer la complexité de la motivation des personnages. Alors, dernier petit détail, hein, on pourrait en citer d'autres, mais je l'ai trouvé assez intéressant, parce que là encore, c'est pas du tout un détail qui correspond à l'esthétique romanesque précédente. C'est à un moment donné, le personnage du Dupuis qu'on a déjà rencontré va avoir recours à un écrivain public, les écrivains publics qui écrivaient des lettres pour les autres. Il y en avait à Paris, beaucoup qui étaient installés dans un endroit qui nous paraît assez étrange aujourd'hui, c'est-à-dire dans des espèces de loges qui étaient sous les charniers du cimetière des Saints Innocents. C'était là où il y avait des lingères, et puis il y a un endroit dans ces charniers où il y avait des écrivains publics. Et alors pour ça, c'est une gravure qui est tardive, hein, 1786, mais pour vous donner une idée, ça n'est pas du tout là encore romanesque, c'est que ces charniers, on avait installé des loges pour certains artisans ou commerçants. Il faut vous figurer qu'au-dessus des arcades, ça n'était que des ossements. Les combles étaient pleins d'ossements. Donc, c'est un petit détail intéressant. Mais le lieu aussi, à l'époque, était le témoignage de la concentration urbaine dans ce qu'elle a de plus dérangeant, c'est-à-dire que faire des cadavres. Et donc, là, il y avait un entassement, finalement, des morts. Donc, on voit que Paris offre à Challes un cadre privilégié pour une nouvelle forme de roman qui prend ses distances avec les modèles du roman précieux et de la nouvelle classique. Et son roman va inspirer des succès de la littérature des décennies suivantes, et en particulier l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, et la vie de Marianne de Marivaux, qui se situe pour l'essentiel à Paris, et qui vont aussi poursuivre dans cette veine du roman qui rend intéressant des personnages dégradés en prise avec des conflits intérieurs. Comme ce sont le roman de Prévost paraît pour la première fois en Hollande en 1731, lui aussi pour une large partie, pas complètement, contrairement à Charles, mais pour une large partie quand même, met en scène ces personnages dans le Paris de l'époque. Ce que je voulais simplement souligner, mais le roman est très connu, j'insisterai pas, ce qui est très nouveau, c'est que Prévost, qui a beaucoup lu la littérature anglaise, qui ne cadre pas non plus, comme le picaresque, avec les normes esthétiques, il a lu Defoe, il a lu beaucoup de presse à sensation, les histoires qu'on tirait des grandes affaires judiciaires de l'époque en Angleterre, dans la Londres de l'époque, et donc lui va insister sur la représentation de la délinquance, l'histoire d'un jeune aristocrate qui devient un escroc. Et donc on a une présentation là aussi originale d'une pègre, mais qui n'est plus la pègre de la littérature de gueuserie traditionnelle et de la cour des miracles, mais un milieu un peu interlope dans lequel on va rencontrer le frère de Manon, Lescaut, qui est un petit peu, on pourrait dire, un policier qui a franchi la ligne. Il est soldat du guet et lui-même, il connaît tellement bien le monde de la délinquance, proxénétisme, prostitution, tripot, tricherie organisée, que finalement il en vit lui-même. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire sur Manon Lescaut. Sur Marivaux, très vite aussi, avant de passer à ma conclusion, Marivaux, lui, va davantage avoir une position de romancier moraliste, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la vie du peuple de Paris, il va représenter la vie du peuple de Paris. En particulier, il y a un épisode célèbre d'une querelle entre une lingère et un cocher où il a il représente de manière très complexe et nuancée cette population qui est une population qui peut apparaître un peu ridicule et qu'il montre comme finalement ayant certes des défauts, mais aussi des qualités parfois supérieures à certains personnages aristocratiques qui gravitent dans le roman. Et pour finir sur la vie de Marianne, vous avez deux histoires d'orphelines un peu en miroir, l'histoire de Marianne proprement dite, l'histoire de Tervire, qui est une histoire emboîtée. Marianne réussit finalement grâce à la grande ville, parce qu'elle y fait des rencontres providentielles, finalement la ville est plutôt son auxiliaire, alors que Tervire, elle, qui est restée en province, au contraire, vit en province l'abandon, la tromperie. Donc on voit que Marivaux, qui est un moderne, il est du clan des modernes, il a quand même, on pourrait dire, fait son choix très nettement, qui est du côté des opportunités qu'offre la capitale, qu'offre la grande ville. Et l'autre grand roman de Marivaux après La vie de Marianne, c'est Le paysan parvenu, qui lui aussi parvient grâce à la capitale. Donc en conclusion, on voit que la promotion de Paris comme cadre privilégié, certes ambivalent, et corollaire des nouvelles ambitions du genre romanesque de cette époque, qui se veut, pourrait dire, moraliste au double sens d'observation de types humains et de groupes sociaux, mais aussi dénonciation d'une réflexion renouvelée sur l'âme, sur les passions, hein, on l'a vu à propos de la complexité des amours et de la violence des personnages de Schall. Espace d'ascension sociale et de réussite, le Paris du XVIIIe siècle répond aux aspirations des romanciers et de leur public, non pas des histoires écrites d'avance pour des personnages aux qualités et aux positions définies dans le cadre d'une noblesse de convention, mais des récits proches du monde du lecteur qui en restituent la complexité et la bigarrure. Ce public, de plus en plus sensible au discours sur le mérite, indépendant de la naissance, vit dans une société composite, en redéfinition, marquée par les échanges, le rôle de l'argent, la comparaison avec l'étranger, la confrontation de valeurs divergentes. La démolition du héros, dont j'ai parlé en introduction, ouvre la voie au paysan parvenu qui s'épanouira, lui aussi, dans la capitale. Je vous remercie de votre attention. Thank you.